France Inter.
h lors de votre journal, Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour mon cher Thomas, bonjour à tous. À la une de ce 13h. Le jour d'après, au lendemain de la séquence historique dans le bureau ovale de la Maison-Blanche où Volodymyr Zelensky s'est fait humilier, pris en tenaille entre le président américain et son vice-président, les États-Unis sont prêts à lâcher l'Ukraine si elle ne se plie pas aux exigences, on devrait dire au deal de Donald Trump. Eh bien, comment l'Europe doit-elle se réinventer sans le soutien historique des États-Unis ? On en parlera avec notre invité. Emmanuel Macron, lui, se dit prêt à ouvrir une discussion pour partager notre dissuasion nucléaire au niveau européen. Ce que dénonce ce matin Marine Le Pen. Vous l'entendrez, elle était au Salon de l'Agriculture à Paris. À la une de ce journal également, 300 000 Réunionnais privés d'eau potable après le passage du cyclone Garance. Nouveau bilan provisoire et de 4 morts, plusieurs blessés. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin avec ce sommelier bordelais qui cuisine avec les grands-mères pour transmettre leur savoir-faire culinaire.
Tu veux que je fasse quelconque découpe ? Je suis un peu ton commis de cuisine.
Oui.
Et après ce journal Secret d'Info, magazine d'investigation, Benoît Colomba, sur quel thème ?
Eh bien, nous allons vous dévoiler comment la Commission européenne a enterré le Nutri-Score obligatoire, ce logo que tout le monde connaît pour savoir si les aliments qu'on achète sont plus ou moins bons pour la santé. Il devait être généralisé en Europe et ce ne sera finalement pas le cas.
À tout à l'heure, Benoît. Et puis le temps de ce samedi, Magali Rochereau, couvert et pluvieux dans le sud du pays.
Oui, Eric, et des températures en baisse ce week-end.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Il n'aura donc fallu que quelques secondes d'une séquence télévisée hier soir pour comprendre à quel point la diplomatie mondiale avait basculé dans un nouveau monde. Séquence historique, puisqu'elle confirme ce que le vice-président américain J.D. Vance était déjà venu faire comprendre il y a quelques jours à Munich, les États-Unis ne sont plus les alliés historiques de l'Europe. Et c'est donc Volodymyr Zelensky qui en a fait les frais hier soir. Hier, accusé de jouer avec la Troisième Guerre mondiale, humilié à la Maison-Blanche entre le président américain et son vice-président. D'un côté, un chef de guerre et de l'autre, deux chefs de gang, disait ce matin la députée européenne Renew Nathalie Loiseau. Quant à l'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann, il presse désormais les Européens d'agir pour repenser une Europe qui serait donc privée du bouclier américain.
Celui qui joue avec la Troisième Guerre mondiale, c'est Vladimir Poutine qui a envahi l'Ukraine et qui détruit ce pays depuis 3 ans. Volodymyr Zelensky, lui, il ne joue pas. Lui, il résiste. Lui, il combat. Lui, il est l'honneur de l'Europe et du monde libre. Et ce à quoi on a assisté hier, c'est à une scène absolument insupportable, dégoûtante. On est tous saisis d'effroi, en fait, face au culot, à l'arrogance de ce président américain et de son vice-président qui décide, eh bien, d'attaquer non pas l'agresseur, mais l'agressé. Et oui, nous sommes à une rupture de notre histoire, une rupture dont on peine aujourd'hui en France et en Europe à prendre la mesure. 80 longues années de relations transatlantiques, eh bien, prennent fin sous nos yeux dans ce spectacle ahurissant, sidérant. Ce à quoi on assiste, c'est à la fin du parapluie américain sur l'Europe. Ce à quoi on assiste, c'est à la grande trahison des États-Unis d'Amérique.
Et après son humiliation hier soir à Washington, Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce matin sur les réseaux sociaux. Il était très important hier soir, écrit-il. Il était très important que l'Ukraine soit entendue et non pas oubliée. On va reparler dans un instant de ce que peut envisager désormais une Europe qui serait privée du bouclier américain. Allons auparavant en Pologne. La Pologne qui soutient l'Ukraine, comme la grande majorité des pays européens, mais une Pologne frontalière de l'Ukraine qui s'inquiète chaque jour un peu plus d'une éventuelle volte-face américaine qui priverait donc le pays du parapluie américain. À Varsovie, notre correspondant Adrien Sarla.
Cher Volodymyr Zelensky, chers amis ukrainiens, vous n'êtes pas seuls. Hier soir, le Premier ministre polonais Donald Tusk a été l'un des premiers dirigeants européens à réagir sur X aux hostilités qui se sont déroulées dans le bureau ovale. À Varsovie, les propos du président Trump et de son vice-président J.D. Vance ont fait l'effet d'une douche froide, car c'est sur les États-Unis que la Pologne comptait pour assurer sa protection face à la Russie voisine, notamment à travers des gros contrats d'armement signés avec Washington ou encore les bases de l'OTAN situées sur son territoire. Le ministre des Affaires étrangères, Radoslav Sikorski, a assuré se tenir aux côtés des courageux guerriers ukrainiens qui défendent la liberté contre l'agression, l'invasion et le nihilisme. Depuis le début de l'invasion russe, Varsovie craint d'être la prochaine cible du Kremlin si Kiev venait à tomber. Alors les investissements militaires massifs de la Pologne ces trois dernières années pour créer l'armée la plus puissante d'Europe pourraient s'avérer salvateurs si les États-Unis mettaient leurs menaces à exécution en tournant définitivement le dos à l'Ukraine et à l'Europe. Adrien Sarlat, Varsovie, France Inter.
Et en France, Emmanuel Macron se dit prêt à ouvrir une discussion pour envisager une future dissuasion nucléaire au niveau européen à la demande de l'Allemagne. Eh bien, ce n'est pas une bonne idée, rétorque ce matin Marine Le Pen. Elle était au Salon de l'Agriculture, elle y est toujours. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous avez donc suivi la présidente du groupe RN dans les allées du Salon.
Oui, Marine Le Pen qui, entre une caresse à la vache Houpette et une dégustation de saucisson, avait tout sauf envie de parler d'Ukraine.
Ah, je croyais que vous aviez commencé à me parler d'agriculture.
Bien obligée finalement de commenter l'altercation Trump-Zelensky qui hier soir a choqué de nombreux dirigeants européens, elle non, la chef de file du RN minimise.
C'est être naïf que de penser que les échanges entre des présidents ne se déroulent pas parfois de manière brutale. Mais elles se déroulent de manière brutale sans les médias. C'est cela en réalité, qui est l'événement, c'est leur caractère médiatique.
Pas un mot de soutien donc pour Volodymyr Zelensky. En 2023, Jordan Bardella l'applaudissait pourtant lors de sa venue au Parlement européen. Pas à une contradiction près, Marine Le Pen s'en prend aussi à ceux comme Raphaël Glucksmann qui considèrent que les États-Unis ne sont plus nos alliés.
Ceux qui disent ça s'apprêtent à quoi sortir de l'OTAN ? Ceux qui disent cela ne sont pas des gens raisonnables.
La sortie de l'OTAN était pourtant dans le programme du RN avant l'invasion de l'Ukraine. À deux jours en tout cas d'un débat à l'Assemblée sur la guerre, Marine Le Pen a tranché sa position critique vis-à-vis de la diplomatie européenne, alignée avec Donald Trump.
Élodie Forêt en direct du Salon de l'Agriculture avec Marine Le Pen et les moyens techniques d'Olivia Branger. Comment l'Ukraine doit donc reconsidérer sa vision du monde ? On en parle maintenant avec notre invité. Bonjour Elie Tenenbaum.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. L'Europe fait bloc derrière le président ukrainien, à l'exception de la Hongrie et de l'Italie. Et ce matin, l'Europe est à la fois au centre du jeu et aussi au pied du mur pour se réinventer.
Oui, c'est un petit peu la situation finalement dans laquelle on voyait les choses se mettre en place dès l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le message du côté de la Maison Blanche a toujours été très clair. Lui, il considère l'Ukraine comme un problème européen qui doit être finalement financé massivement par les Européens, et il critique pour ça l'implication excessive à leur goût de l'administration Biden. Et en même temps, ils cherchent à imposer un accord non seulement à l'Ukraine mais finalement à l'ensemble de l'ordre de sécurité en Europe. Et donc là, depuis plusieurs mois déjà, on attend une réponse de l'Europe qui pour l'instant se fait par la parole, par des déclarations de soutien ou des lancements de projets qui restent assez vagues.
Vous parlez de l'Europe de la défense notamment.
On parle des coopérations. Alors l'Europe de la défense, ça peut passer par l'Union européenne, ça peut passer par un accord aujourd'hui avec les Britanniques qui ne sont plus dans l'Union européenne mais qui sont les premiers finalement au chevet de l'Ukraine. On a vu le Premier ministre britannique Keir Starmer qui a succédé à Emmanuel Macron à Washington pour essayer de préparer le terrain à cette entrevue avec Volodymyr Zelensky. Bon, finalement sans y parvenir totalement. Et oui, c'est le moment pour les Européens d'arriver avec un plan concret, à la fois de la manière dont ils entendent pouvoir soutenir l'Ukraine, lui apporter des garanties de sécurité, et plus largement, enfin, de parvenir à un propre modèle de sécurité pour eux-mêmes dans un monde où l'Amérique ne sera plus aussi engagée qu'elle a pu l'être, voire plus du tout engagée aux côtés des Européens.
Un propre modèle de sécurité pour l'Europe, dites-vous, est-ce qu'il faut partager la dissuasion nucléaire de la France au niveau européen comme le souhaite l'Allemagne ? Emmanuel Macron vient de dire qu'il était prêt à l'envisager.
Depuis 2020, Emmanuel Macron a évoqué la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française, de la définition des intérêts vitaux. La France, la dissuasion nucléaire française défend les intérêts vitaux de la France, mais ces intérêts vitaux, ils ont toujours une dimension extraterritoriale et évidemment européenne, puisque c'est notre environnement. Après, évidemment, à partir du moment, si les Américains venaient à retirer leur dissuasion nucléaire et qui bénéficie aujourd'hui très largement aux alliés de l'OTAN, si ce parapluie nucléaire venait à disparaître, eh bien la France, comme le Royaume-Uni, devrait sans doute effectivement engager des discussions extrêmement sérieuses, et ça se fera pas sur un coin de table, pour voir comment adapter les deux composantes aujourd'hui indépendantes. Il faut bien rappeler que la performance et la crédibilité d'une dissuasion dépend quand même sur une certaine verticalité de la chaîne de commandement. On ne pourra pas laisser le bouton nucléaire au Conseil européen ou de manière tournante comme la présidence de
la France resterait toujours à la manœuvre pour le bouton.
Dans les prochaines années, décennies, on a du mal à envisager quelque chose d'autre. En revanche, pour développer une dimension plus européenne, ça serait possible avec des ajustements.
Merci beaucoup, Elie Tenenbaum, donc directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI et l'Institut français des relations internationales.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
4 morts, plusieurs blessés à La Réunion. Bilan toujours provisoire après le passage du cyclone Garance. Plus de 310 000 Réunionnais sont privés d'eau potable. Près de 140 000 sans réseau Internet. Le confinement est terminé et donc la population constate ce matin les dégâts. Reportage à Saint-Leu, à l'ouest de La Réunion, signé Lola Fourmi.
L'essentiel des dégâts n'a pas été causé par le vent et ses rafales, mais bien par les trombes d'eau, des précipitations records qui n'avaient pas été enregistrées depuis plus de 50 ans sur certains endroits de l'île, et puis ces coulées de boue qu'elles ont entraînées. En reconnaissance ce matin, le préfet est allé à la rencontre des élus de l'Est à Saint-André, tandis qu'à Saint-Denis, l'eau est montée de plusieurs mètres dans certaines résidences, comme celle de Caricube, où certains locataires doivent maintenant être relogés. L'urgence, c'est aussi de dégager les routes, voire de les reconstruire, comme à Saint-Leu, où l'un des accès principaux s'est effondré, le maire Bruno Domaine.
Sur le secteur de Saint-Leu, une partie de la portion entrée nord donc, n'est pas accessible, puisqu'il y a eu le pont qui s'est effondré. Et la partie sud, il y a eu des coulées de boue, donc de la ravine du Cap qui a débordé. Donc on est en passe de nettoyer. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller ouvrir la circulation pour les secours et les personnes.
Aux quatre coins de l'île, les équipes s'activent, notamment du côté d'EDF, pour rétablir le courant dont sont encore privés plusieurs milliers de foyers. Des équipes sont aussi arrivées en renfort, notamment 104 sapeurs-pompiers venus de Mayotte, où certains étaient allés aider après le cyclone Chido. Ils arpentent désormais la Réunion pour tenter de rétablir au mieux la situation. À Saint-Leu, Lola Fourmi pour France Inter.
Et voici à présent une sordide histoire. Ça se passe dans la métropole lilloise, à L'Homme précisément. 6 adolescents de 12 à 17 ans ont été entendus par un magistrat pour enlèvement, séquestration et violence sur un enfant. Les 6 adolescents évoquent un jeu. L'affaire date de novembre dernier, mais les adolescents n'ont été interpellés que mercredi. Antoine Barège.
Les enquêteurs travaillent sur le dossier depuis plus de 3 mois pour réunir un maximum de preuves et pour définir les rôles. Les 6 adolescents ont entre 12 et 17 ans. Ils habitent le quartier du Marais à L'Homme et ils ont été arrêtés mercredi chez eux. En garde à vue, ils ont évoqué un jeu qui a mal tourné. Ils ont voulu faire comme dans les films, nous raconte une source proche de l'enquête. En novembre dernier, ils décident d'enlever une de leurs connaissances, un enfant de 10 ans dans un parc. Ils l'emmènent de force dans une cave, l'attachent à une canalisation. L'enfant est pendu par les bras, il est frappé. Les agresseurs menacent de lui couper un doigt avec un sécateur et ils finissent par s'enfuir au bout d'une heure de calvaire. 2 adolescents se voient reprocher l'enlèvement, la séquestration et les violences. 2 autres sont soupçonnés de ne pas avoir empêché les violences. Les 2 derniers sont accusés accusé d'avoir filmé la scène et d'avoir diffusé les vidéos sur les réseaux sociaux.
Antoine Barège, Issinor. Un regain d'inquiétude sur la santé du pape hier soir. Après une crise respiratoire, cela dit, le souverain de 88 ans a passé une nuit qualifiée de tranquille, même si son pronostic vital reste réservé. Le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, a approuvé ce matin l'appel de son chef historique à cesser les hostilités avec la Turquie. Il s'agit désormais de valider un accord de paix avec la Turquie. En France, retour sur les Césars avec le triomphe du film Emilia Pérez de Jacques Audiard, 7 fois récompensé hier soir, dont le César de la meilleure musique originale de la chanteuse Camille et de son compagnon Clément Ducol. L'aventure d'Emilia Pérez se poursuit désormais outre-Atlantique, les Oscars en vue. Le film est nommé 13 fois à Los Angeles, on sera fixé dans la nuit de dimanche à lundi. Los Angeles, où le couple de musiciens français, Camille et son compagnon, est installé depuis l'été pour faire la promotion du film. Une aventure américaine donc, que Camille et Clément Ducol ne sont pas prêts d'oublier. Reportage à Los Angeles, signé Corinne Pellissier.
Tout a une fin, hélas. Dans quelques jours, il faudra quitter le quartier de Venice Beach, refaire les bagages et rentrer en France, retrouver les projets laissés en suspens le temps de la campagne. Une tournée pour Camille, des enregistrements studio pour Clément Ducol. Après 4 années passées à écrire et composer la musique d'Emilia Pérez, s'installer ici pour 6 mois à Los Angeles, mener campagne pour les Oscars, était pour eux une évidence.
On a compris effectivement tout ce qui se jouait et qu'une campagne des Oscars, c'était pas juste tu vas récupérer un prix. Plutôt que de faire 10 000 allers-retours pour la fatigue, les enfants et le bilan carbone, on s'est dit, on va vivre l'expérience ici.
On se sent un peu ambassadeur.
Un quotidien fait de rencontres et d'opportunités nouvelles qui ont enrichi leur carnet d'adresses, leur façon de travailler, donné aussi de nouveaux objectifs.
Il y a tellement de communautés différentes, tellement d'artistes, tellement de gens, plein de métiers.
Donc évidemment, on pense à notre développement.
Ouais, c'est un tapis volant, quoi. C'est un accélérateur de rencontres qui est assez génial.
Une page se tourne, mais l'aventure américaine est loin d'être terminée. Avec déjà un Golden Globe en poche pour Elle Mal, Camille et Clément représentent à nouveau ce week-end l'une des meilleures chances pour Emilia Pérez de briller en lice pour les Oscars de la meilleure chanson et de la meilleure BO.
Quant aux César, hier soir, ils ont été suivis par plus de 2 millions de spectateurs sur Canal+, en hausse pour la 3e année consécutive. Et puisqu'on parle de récompenses, retenez, à propos du prix du Livre Inter, que vous avez finalement jusqu'à lundi 10 mars pour nous envoyer un courrier motivé. Si vous souhaitez faire partie des 24 membres du jury, eh bien écrivez-nous, soit sur franceinter.fr, rubrique Livre Inter, ou bien par courrier France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX, 16. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Nous sommes à la veille de la fête des grands-mères. Eh bien, rencontre aujourd'hui avec un sommelier bordelais qui sillonne les routes de France pour s'inviter dans la cuisine des mamies. Ce qu'il veut, c'est transmettre les recettes des grands-mères qui lui dévoilent donc leurs petits secrets culinaires. Rémi Dispersin, c'est le nom de ce sommelier, cuisine avec chacune d'elles.
Après Solange, René, Chantal, Juliette, c'est au tour de Lucienne, alias Mamie Lulu. Elle vit en Normandie.
Bonjour.
Bonjour, Lucienne.
Vous allez bien ?
Oui, je vous ai apporté un petit peu de vin.
Fallait pas.
Et aussi une spécialité de chez nous, ce sont les fameux canets bordelais.
Ah, c'est gentil. Bon, le boulot.
Ok, chef.
Allez, allez.
Ok.
Premier à gauche, la cuisine, avec en fond sonore Franck Michael, l'idole de Lucienne.
Il n'est pas terrible, mais tant pis, c'est un tablier. Hein.
Vous avez préparé quoi, là ?
Une blanquette, comme j'ai l'habitude de la faire.
Sans balance, sans minuteur.
Jamais, je fais au pif.
Tu veux que je fasse quelconque découpe ? Je suis un peu ton commis de cuisine.
Oui. Alors, ça, c'est des légumes que je vais faire cuire dans de l'eau avec la viande.
Ok, je vais juste le noter sur mon carnet. Combien d'ail à peu près, là ?
Une tête d'ail, carrément. Hein.
Okay.
3 oignons, un navet.
Un navet, très bien.
Et les carottes, pas tout à fait 1 kilo de carottes.
Environ 1 kilo, super.
Frigidaire. Ah, la viande.
Le veau, tout ça là-dedans, dans la marmite.
Comme ça, hein ?
Voilà.
Grossièrement, quoi.
Là, tu remplis d'eau ?
Pardon ?
Tu mets à hauteur, à peu près ?
Oui, oui.
Et hop, sur le gaz.
3 quarts d'heure.
D'accord, ok.
C'est parti.
Ça chauffe. Ça va cuire comme ça, tranquille, je m'en occupe plus.
Vous avez l'air assez ému.
Oui, mais ça me fait plaisir. Je vois maman en train de cuisiner. C'est le plaisir de redonner quelque chose de mes parents. Voilà. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
Il y a de la joie.
Le petit-fils de Lucienne filme la scène, très touché par la démarche de notre sommelier.
Pour moi, ça restera, ça laissera une trace déjà de ma grand-mère. Et puis, c'est pas juste copier une recette et la retranscrire, c'est vraiment partager le moment avec la mamie et les petits tips de grand-mère. Il n'y a pas que les recettes qui se perdent, il y a surtout le savoir-faire finalement.
C'est exactement ce que veut sauver Rémi.
Ça va du plat du plus basique au plus improbable. Des escargots en bolognaise, des coups farcis de canard.
Et c'était comment ?
Ah mais c'était une délice.
Allez encore.
Mamie Marguerite par exemple, 99 ans, qui me fait une soupe d'ortie. C'est pas quelque chose de commun, mais je m'éclate.
Oh mince, j'en fous partout.
C'est pas grave.
J'en mets à côté pour m'en lécher les doigts.
Voilà, et on va donc laisser cuire cette blanquette. Rendez-vous demain, Sandrine, pour la suite de cette recette. Le temps.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables. Par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Eric.
Avec un ciel chargé du côté de la Méditerranée.
Oui, la goutte froide en Allemagne continue d'influencer le temps au sud du pays et ça génère de l'instabilité sous forme d'averses sur les Pyrénées et sur la partie est de la Corse qui se transforme en neige au-dessus de 1000 mètres dans les Pyrénées, de 1600 mètres en Corse à vie aux randonneurs. Quelques flocons tomberont également vers 1000 mètres sur les Alpes frontalières dû à un retour de nuages de l'Italie, mais quand même de belles éclaircies apparaissent au-dessus des régions entre l'Aquitaine et Savoie, comme dans les deux tiers nord du pays où nuages et rayons de soleil alternent dans le ciel de la Touraine aux Ardennes en passant par l'Île-de-France.
Et les températures baissent ce week-end.
Oui, le mercure est sous les normales saisonnières au nord comme au sud du pays et c'est dû au vent de nord-est qui rafraîchit les maximales comprises entre 6 et 10 degrés sur les deux tiers nord et entre 10 à 15 plus au sud. 10 degrés sont prévus à Biarritz et 13 à Toulouse qui perdent chacun 3 degrés par rapport à hier.
Les prévisions de Magali Rochereau.